Chers auditeurs, bonjour. Souvenez-vous, je vous avais parlé lors de la dernière émission de l'entretien du canal, entretien que les descendants de Riquet avaient rencontré très vite. C'est aussi valable d'ailleurs aujourd'hui, et les travaux qu'on faisait à l'époque, il faut les faire aujourd'hui également. Mais par contre, les moyens ont changé. Récemment, et très exactement le 2 décembre de l'an dernier, le 2 décembre 2019, certains Toulousains ont pu constater que le canal avait été vidangé à Toulouse entre les écluses de Bayard et l'écluse des Minimes. Les eaux se sont progressivement vidées sur les 2 km qui séparent ces deux écluses. En 2 jours, ils ont dû évacuer 50 000 mètres cubes d'eau. Jacques Noisette, qui est le chargé de communication pour l'entreprise Voies Navigables de France, entreprise qui gère le canal, a expliqué que c'est une opération que l'on fait tous les 10 à 15 ans. La dernière fois à Toulouse, c'était en 2006. Cette mise à sec a permis la tenue d'importants travaux de nettoyage et de maintenance. Elle a également permis de ramasser les nombreux déchets qui stagnaient au fond du canal. On a trouvé de tout, des vélos, de l'électroménager, des barrières de ville. Enfin, tous ces impedimenta enlevés, les équipes donc des Voies Navigables de France ont procédé aux différentes opérations de maintenance sur les portes des écluses et l'état des berges. La remise en eau du canal a été réalisée le lundi 23 décembre 2019 et il a été de nouveau ouvert à la navigation à partir du 26 décembre. Aujourd'hui, 350 employés dépendent du gestionnaire dont je vous ai parlé, gestionnaire qui s'appelle Voies Navigables de France, établissement qui dépend du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. Quelle a été la fonction du canal du Midi dès son origine? Et qu'en est-il devenu aujourd'hui au XXIe siècle? C'est à ces deux questions que je vais répondre. Dès le début, le canal a été utilisé d'abord pour le transport des marchandises et ensuite pour le transport de voyageurs et le transport du courrier. On pourrait parler d'un service de transport en commun, en fait. Ensuite, un service de malle-poste est mis en place sur les bateaux qui naviguent sur le canal. C'est, si vous voulez, l'équivalent de la diligence terrestre. À l'époque, les bateaux sont tirés par des chevaux sur des chemins de halage. C'est un moyen de transport, à l'époque, apprécié par sa régularité, son confort, sa sécurité et sa rapidité. Enfin, rapidité pour l'époque, hein. La durée du voyage est de 4 jours pour aller de Toulouse à Sète. Mieux, un peu plus tard, on ne mettra que 32 heures, soit une vitesse de 11 km/h. Pour ce gain de temps, on remplace les chevaux tous les 10 km. Et pour éviter la perte de temps au passage des écluses, on transfère les voyageurs d'une embarcation à une autre. Et puis, on peut même faire le trajet de nuit. En 1684, le voyage Toulouse-Agde coûte 1,5 livres. Les malles-postes mesurent quelques dizaines de mètres et possèdent un simple abri sur le pont. Mais avec le temps, elles vont évoluer, deviennent plus rapides, plus luxueuses et plus grandes, pouvant atteindre jusqu'à 30 mètres de long. À l'intérieur, on trouve des premières classes avec des salons privés et des secondes classes avec une salle commune. À côté du transport de voyageurs, le canal permet de relancer le commerce du blé et du vin en Languedoc, ce qui était au départ un des souhaits de Colbert. Les descendants de Riquet retirent de ce trafic commercial des bénéfices substantiels. Le canal devint un moyen d'échange entre la région de Bordeaux ou de Marseille et élargit la zone de vente des producteurs du Languedoc. Mais il ne sera jamais la grande voie internationale qu'espéraient les rois de France. Le canal est également emprunté à côté des péniches par des barques destinées elles aussi au transport de marchandises. Ces barques mesuraient environ une vingtaine de mètres et étaient tirées par des chevaux et même dans certains cas, on l'a pu le voir, par des hommes. Le tonnage augmentera au cours des siècles, passant de 60 tonnes au début jusqu'à 120 tonnes au début du 19e siècle. Mais d'autres barques sillonnent également le canal. Ces barques, spécialement adaptées au canal, sont appelées barques de patron. En 1778, on en compte plus de 250, et en 1914, malheureusement, il en restera encore 126, mais ça a déjà bien baissé, et il y a en plus, à côté de ces barques, 70 bateaux d'armateurs qui, pour tirer, il faut 300 chevaux et 75 mulets. Il faudra attendre 1930 pour que les péniches à moteur aient remplacé totalement et définitivement la traction animale. Mais le déclin du canal va commencer et la batellerie commerciale et marchande disparaîtra. En gros, il y a une quarantaine d'années, on dira vers 1980. Le canal, en définitive, a un peu déçu. Il n'a pas apporté totalement ce qu'on attendait. 1685-2020. Le canal du Midi a aujourd'hui 335 ans d'exploitation. Pourquoi et quand le canal a-t-il commencé à souffrir ? En premier, il a été victime de la concurrence du rail et puis ensuite victime de la concurrence de la route. La première partie du 19e siècle a été l'âge d'or du canal, et cela on peut le dire jusqu'à la fin des années 1850. Le train arrive après. Nouveau moyen sûr et rapide de voyager. Une ligne de chemin de fer est ouverte entre Bordeaux et Narbonne. Napoléon III, en 1858, confiera la gestion du canal du Midi pour une durée de 40 ans à son adversaire le plus dangereux, la Compagnie des chemins de fer du Midi, propriétaire justement de la nouvelle ligne de chemin de fer Bordeaux-Narbonne. Le train et le canal se trouvent forcément en compétition et la Compagnie des chemins de fer du Midi n'a aucun intérêt à faire du zèle pour le canal. Et c'est le début d'une longue agonie. Le rail rapporte plus et pour éviter la concurrence, la Compagnie des chemins de fer augmente les taxes du canal. Il devient le canal le plus cher de France. Et une autre raison qui favorise le rail, il est plus régulier et plus rapide. Ce n'est que plus tard, en 1898, que l'État reprendra la gestion du canal et investira pour maintenir sa compétitivité. Il supprimera les taxes, les droits de péage aux écluses, et grâce à ça, le trafic se relance un peu, mais le mal est fait. L'État va aussi lancer des travaux de rénovation pour essayer de mettre le canal aux normes du gabarit Freycinet. Le gabarit Freycinet est une norme européenne qui régit la dimension des écluses de certains canaux. Ce gabarit a été mis en place par une loi programme de Charles de Freycinet qui date du 5 août 1879. Il donne de façon très exacte les dimensions, en particulier des sas des écluses. Je passe sur les chiffres. Ce gabarit correspond actuellement au gabarit européen de classe 1. En 2001, la France avait 5800 km de voies fluviales aux normes Freycinet, par lesquelles passait 23% du trafic fluvial. En 2020, cela n'a pas beaucoup augmenté. Mais en ce qui concerne le canal du Midi, la loi ne sera pas appliquée, faute de crédit. Et le canal ne sera jamais mis aux normes et donc va continuer à s'endormir. En 1918, le trafic fonctionne très mal. En 1920, grâce à l'arrivée des péniches à moteur, le trafic marchandises va vite reprendre un peu de vie. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, bien sûr, le canal voit un fort ralentissement de son trafic, mais il reprendra un peu en 1945. Mais comme je vous l'ai dit, sa taille est trop petite, on ne l'a pas mis aux normes Freycinet, cela va être un grand handicap. Il souffre de nouveau grandement de la concurrence du rail et de la route. À partir des années 1970, le trafic de marchandises cesse presque totalement. Et en 1980, il y a 40 ans à peine, il ne reste plus que deux péniches, le Bacchus et l'Espérance, qui cesseront définitivement leur activité en 1989, après que le préfet de région de l'époque ait été obligé d'arrêter la navigation sur le canal pour cause de sécheresse. La gestion du canal, comme nous l'avons vu, est confiée depuis 1991 à l'administration des voies navigables de France. On peut se poser la question, quelle est la place du canal du Midi en ce début du XXIe siècle? Le canal a bien sûr vieilli, mais il a su quand même s'adapter et surtout retrouver de nouvelles fonctions. Tout d'abord, n'oublions pas qu'il permet de joindre maintenant l'Atlantique à la Méditerranée et cela favorise aussi le transit des bateaux de plaisance, nombreux en été. Sa fonction a changé. Il n'est plus utilisé pour le transport des marchandises, mais essentiellement pour le tourisme, les loisirs et le logement. Les Anglais ont été les premiers à développer, dans les années 1960, un nouveau concept de tourisme fluvial. Le canal est de plus en plus fréquenté par des bateaux de location, des bateaux-restaurants ou des bateaux-promenades. À partir de 1980, cette activité a véritablement explosé et le canal est devenu une voie très fréquentée de vacances pour les nombreux marins d'eau douce, français et étrangers, en particulier allemands, suisses et britanniques. Il faut savoir que le canal du Midi est plus fréquenté que la Seine. À lui seul, il assure un cinquième du tourisme fluvial français. On estime qu'environ plus de 100 000 personnes le parcourent chaque année sur des centaines de pénichettes, de petits bateaux. Un exemple, l'écluse la plus fréquentée du canal du Midi est l'écluse d'Argens, située dans l'Aude. Elle voit passer tous les ans plus de 11 000 bateaux qui transporte en moyenne 5 passagers. Le canal est un employeur important pour la région. Il emploie directement environ 1900 personnes et on chiffre son impact économique annuel aux environs de 122 millions d'euros, ce qui est loin d'être négligeable pour le Languedoc. Je pense que Pierre-Paul Riquet serait aujourd'hui aussi fier de son canal. Parlons de la période où le canal est ouvert à la navigation. La navigation est possible du troisième samedi de mars à la première semaine de novembre. Comme autrefois, la période d'hiver est appelée période de chômage et sert à réaliser les travaux d'entretien. Il ne faut pas aussi oublier que l'environnement du canal est particulièrement agréable et charmant. Ses berges sont ombragées et permettent la pratique de plusieurs sports, marche à pied, jogging, cyclomotourisme et autres sports. Personnellement, j'ai souvent parcouru en vélo le tronçon de Toulouse-Avignonnet, piste goudronnée de 50 km, qui en plus du côté sportif, permet de s'intéresser à la vie autour du canal. Une autre piste pour cyclistes relie Béziers à Portiragne-Plage, appelée la Voie Verte, qui est longue de 27 km et qui est une promenade familiale facile et très agréable. De plus, on trouve également un habitat sur le canal. Plus de 500 péniches converties en logements familiaux sont amarrées le long de ses berges ou dans de petits ports comme port sud situé aux portes de Ramonville-Saint-Agne. À Toulouse, le port Saint-Sauveur, le port de l'Embouchure, mais aussi tout le long du canal, un grand nombre de mouillages accueillent les mariniers. Et je citerai un joli endroit, le port de plaisance de Castelnaudary, mais il y en a bien d'autres. À côté de cette activité que j'appellerais festive, le canal remplit une fonction extrêmement importante. Il sert, au cours de la saison sèche, de réservoir pour l'agriculture. Il ne faut pas se tromper, c'est même actuellement l'un des rôles fondamentaux du canal. Certainement une des raisons pour laquelle l'État le conserve depuis la fin du commerce marchand. Il peut irriguer jusqu'à 40 000 hectares de terres agricoles situées autour de lui. Autre fonction très importante, il assure l'alimentation en eau potable du Lauragais grâce aux usines de traitement de Picotalène depuis 1973. Ce site produit de l'eau destinée à la consommation des syndicats de communes de la Haute-Garonne, du Tarn et de l'Aude. La zone de distribution s'étend jusqu'aux portes de Castres, Carcassonne et Toulouse. Comme je viens de vous le montrer, le canal du Midi était autrefois vu comme un outil de production, d'échange et de commerce. Actuellement, son rôle reste très important. C'est une route touristique, un partenaire incontournable de la vie agricole et aussi de la vie tout court. Mais on doit aussi voir le canal du Midi comme un patrimoine architectural et technique de première importance, inscrit en 1996 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il a été classé la même année monument historique au titre de la loi française qui couvre les grands sites. Le classement au titre du patrimoine de l'UNESCO demande une surveillance supplémentaire de la part de l'État. L'État a la responsabilité de surveiller les abords et les ouvrages d'art de ces monuments classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Or, un rapport d'inspection générale de l'architecture et du patrimoine a montré que le canal était en mauvais état. Son environnement est desservi par un urbanisme anarchique qui dénature le site, on le voit bien, et son entretien n'est pas non plus peut-être réalisé aussi correctement qu'il le faudrait. En ce qui concerne l'entité totale du canal des deux mers, j'englobe alors le canal du Midi et le canal de la Garonne, latéral à la Garonne, dans cette entité, eh bien, il y a un problème, il y a trop d'acteurs impliqués. Le canal des deux mers est situé sur le territoire de deux régions, Occitanie et Nouvelle-Aquitaine. Le canal traverse en Occitanie les départements de l'Hérault, Aude, Haute-Garonne, Tarn et Garonne. Et en Nouvelle-Aquitaine, il traverse le Lot-et-Garonne et la Gironde. Il faut ajouter les collectivités locales qui ont aussi leur mot à dire. Et tout ce beau monde a des difficultés pour s'accorder à supporter le coût des travaux de sa restauration. Et nous verrons au cours de l'émission prochaine que le canal des deux mers est fait d'un très grand nombre d'ouvrages et que son entretien, lui aussi, est très lourd et très coûteux. Chers auditeurs, je vous dis à très bientôt sur Historia, l'émission qui vous parle de votre région.